Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue dans cette édition chômage au Burkina. Des ONG invitent le gouvernement à travailler à la sécurisation du territoire afin de pouvoir offrir des emplois aux jeunes et aux femmes. En Guinée, Alpha Condé est en lieu sûr et demeurera en Guinée. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la junte hier. Malgré les interpellations de la France, de l'Allemagne et de la CEDEAO, le Mali semble tenu à son projet avec la société privée russe Wagner. Il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, a déclaré le Premier ministre Chokel Maïga hier. Et puis en sport, Iron Bibi lève encore plus haut le drapeau burkinabé sur le toit du monde. Il a battu hier le record mondial en soulevant une charge de 229 kg lors du World's Strongest Log Lifter. Quelles sont les chances de qualification du Burkina pour le Mondial 2022? On en parle avec notre invité, l'ancien international burkinabé Madi Panande Tigri. Interview à suivre en fin de journal. Durant 48 heures, des ONG et associations ont mené des réflexions sur la question du chômage au Burkina à l'occasion de la 9e édition des Journées nationales de concertation. Réunis les 16 et 17 septembre dernier, ces acteurs du développement économique et social étaient face au Premier ministre Christophe Dabiré vendredi. Les échanges qui ont porté sur l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes et la prise en charge des déplacés internes. Des précisions avec Chalda.
Le chômage, la non-prise en charge des personnes déplacées internes, la non-scolarisation des enfants inquiètent les ONG et associations et qui ont tenu à avoir un tête-à-tête avec le gouvernement afin d'avoir une solution à ces problèmes. Christelle Kaloulé, PCA du SPONG.
Nous avons échangé autour de 13 préoccupations. Nous avons demandé que les ONG et associations de développement puissent également avoir accès à l'assistance humanitaire pour pouvoir accompagner dans la délivrance des services, parce que vous savez que nous sommes dans un contexte difficile avec beaucoup de personnes déplacées. Et donc, cette question s'est invitée à la table. Nous avons parlé de l'éducation également.
Des jeunes regroupés dans des associations peinent à se projeter dans leur passion pour des questions de manque de suivi et de finances.
Madame Nguem, née Kwandombo Aïssata. Bon, si on gagne les subventions, oui, cela va nous arranger, cela va vraiment nous aider à payer plus de métiers, plus de matières premières.
Je suis Palobde Émilie Tiendrebego, la présidente de l'association Palobde. Pour l'entreprise, le défi aussi, c'est de passer à l'industrialisation. Si on veut que doter les jeunes filles du Burkina en serviettes hygiéniques, bon, on ne peut pas continuer à produire des petites quantités par mois. Il faut qu'on a des demandes et à l'extérieur du pays aussi. Donc il y a le défi de l'industrialisation, trouver des voies et des moyens pour pouvoir aller à l'industrialisation.
Cette 9e édition des Journées nationales de concertation était aussi l'occasion pour le gouvernement de montrer son engagement contre le chômage malgré l'insécurité et la crise sanitaire. Christophe Dabiré, chef du gouvernement.
Aujourd'hui, ces préoccupations sont exacerbées par le fait que nous sommes dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile. Nous avons une situation sanitaire très délétère et de surcroît, avec le changement climatique, nous avons des difficultés au niveau de la prise en charge d'un certain nombre de populations qui sont concernées par les inondations ou par les sécheresses, etc., etc. Les organisations non gouvernementales accompagnent les actions du gouvernement dans la prise en charge des personnes vulnérables. Et c'est pourquoi au cours de cette concertation, elles se sont penchées sur le thème de l'emploi. L'emploi en faveur des jeunes, l'emploi en faveur des femmes, parce que ce sont les populations les plus vulnérables dans des contextes sécuritaires tels que ceux que nous connaissons aujourd'hui.
À l'issue de ces concertations, gouvernement, ONG et associations se sont accordés pour surmonter les difficultés telles que le manque de communication, l'insécurité dans les zones d'intervention. Cela afin de résoudre le problème du chômage et la prise en charge des personnes déplacées internes.
Une rencontre d'échange a eu lieu entre les députés, les conseillers de la Cour des comptes et les contrôleurs de la SULC. Objectif, mutualiser leurs efforts pour examiner les enjeux et les défis de la mission de contrôle des différentes institutions du pays. Cette rencontre d'échange entre les trois institutions s'est tenue vendredi à Lumbila, dans Lubritenga, le compte rendu.
Ce cadre de concertation est une occasion pour les élus nationaux, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SCLC, et la Cour des comptes de ce palais. Ils vont donc échanger les idées pour conjuguer leurs actions pour plus d'efficacité dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Désirée Marie-Chantal Boni est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale.
Nous saisissons la balle au bon pour retrouver ces trois institutions et voir comment est-ce que on peut faire une conjonction d'action pour pouvoir mieux faire parce que les populations demandent davantage la transparence, les populations demandent davantage des contrôles pour s'assurer par exemple que les deniers publics qui sont mis à disposition de certaines structures sont utilisés à bon escient.
Cet atelier va aussi permettre à ces trois institutions de mutualiser leurs efforts. À cela s'ajoute aussi l'examination des enjeux et les défis de la mission de contrôle afin d'atteindre leurs objectifs. Urbain Milogo est le contrôleur général d'État adjoint par intérim à l'ASCLC.
C'est d'échanger déjà sur les enjeux, les défis, les perspectives de ces organes-là et de voir comment on peut mutualiser ce qu'on fait. Comme on le dit souvent, qu'un doigt ne ramasse pas la farine. Or, si on poursuit les mêmes objectifs, on devrait pouvoir travailler ensemble pour voir comment mieux atteindre ces objectifs.
Les résultats de ces travaux feront l'objet de l'élaboration d'un cadre périodique de coordination stratégique opérant. Ils seront assortis d'un document contenant les recommandations et un dispositif de suivi-évaluation des dites recommandations. Ce cadre de concertation est une première étape du processus de mutualisation et d'autres rencontres se tiendront les jours à venir.
Compte rendu signé Bruno Bayala. Le parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple Progrès, MPP, tient un congrès extraordinaire du 24 au 26 septembre prochain. À quelques jours de cette rencontre, plusieurs partis annoncent leur fusion avec le parti du président du Faso Roch Kabore. Qu'attendent de ce congrès qui est vu comme celui de tous les dangers? On en parle à votre émission Dimanche Politique sur 19 septembre 2021 avec le premier vice-président du MPP, Clément Sawadogo. Dimanche Politique, c'est à partir de 9h00 sur les ondes de la radio Omega 103.9 Ouaga 104.7 Bobo-Dioulasso, mais également sur Omega TV, canal 258. Et puis, santé à présent, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a célébré vendredi dernier la journée mondiale de la sécurité des patients, placée sous le thème soins maternels et néonatals sans risque. Cette journée vise à sensibiliser le grand public à l'importance des soins complets pour la personne et de prévenir les dommages causés. Les temps forts de cette commémoration avec Judith Traoré.
Chaque jour, en Afrique, selon la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina, Dr Jeanne Alima Diarra, 536 femmes meurent de causes liées à la grossesse et à l'accouchement et 10 700 nouveaux-nés meurent de causes évitables. Au Burkina, la situation n'est guère meilleure, reconnaît le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouédraogo, pour qui les causes de cette situation sont multiples.
Si vous avez un plateau technique qui est insuffisant, c'est difficile de donner des soins en toute sécurité. Si vous avez une insuffisance en énergie avec des pannes d'électricité, c'est difficile de donner des soins de qualité en toute sécurité dans l'obscurité. Si vous avez des agents de santé qui sont absents à leur poste de travail au moment où ils doivent être, c'est difficile de parler de sécurité des soins et donc de qualité des soins.
Cette année, la Journée mondiale de la sécurité des patients est célébrée sous le thème « Soins maternels et néonatals sans risque » pour rappeler à l'ensemble des acteurs du secteur de la santé l'obligation d'agir.
La santé de la mère et de l'enfant constitue un indicateur de développement dans tous les pays du monde entier. C'est pour cela que nous avons voulu célébrer cette journée et rappeler à l'ensemble de la communauté nationale et internationale qu'il est important d'investir dans la santé des mères et de l'enfant. Et que dans cet investissement, nous devons faire en sorte que la mère et l'enfant soient protégés avec l'ensemble des mesures qui s'y est pour que les soins qui sont offerts offerts à ce couple mère-enfant puissent être des soins efficaces, des soins de qualité, des soins dénués de toute situation qui pourrait compromettre la santé de la mère et de l'enfant.
La Journée mondiale de la sécurité des patients a été initiée en 2019 par l'OMS. La sécurité des patients est un domaine des soins de santé qui a émergé avec la complexité croissante des systèmes de santé et la hausse des préjudices causés aux patients lors des soins de santé.
Hors de nos frontières, nous commençons par la Guinée où les membres du Comité national pour le rassemblement et le développement étaient face à la presse hier pour se prononcer sur les exigences de la CEDEAO. Une rencontre qui s'est tenue au lendemain de la visite du président ivoirien et celui du Ghana dans le pays au nom de la CEDEAO. Suivons le compte-rendu de notre correspondant à Conakry, Abdoulaye Diallo.
Lors de cette conférence de presse au chapiteau du Palais du Peuple, Colonel Amara Camara, porte-parole du CNRD, a rappelé la fermeté de la junte par rapport à la situation de l'ancien président Alpha Condé.
Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale.
Quant à l'autre exigence de la CEDEAO qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 6 mois, le CNRD invite l'organisation régionale à écouter le peuple de Guinée.
Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin.
Le colonel Amara Camara a aussi informé que dans un bref délai, la liste des membres du CNRD sera publiée.
On vous fera une communication très rapidement là-dessus. Mais ce que nous voulons que vous compreniez que le CNRD, c'est vraiment l'autre image très apparente de l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité. Pour les têtes apparentes, c'est ce que vous voulez, vous aurez une réponse, une liste très bientôt.
Il faut rappeler que 2 semaines après la prise de pouvoir par le CNRD, les Guinéens attendent toujours la liste des membres de cette équipe dirigée par Colonel Mamadi Doumbouya.
Et en ce qui concerne les sanctions à l'encontre des membres du CNRD, les échanges ont été brefs sur la question, a affirmé le porte-parole de la junte. Selon lui, le colonel Doumbouya a répondu, je cite, « Nous sommes des soldats, la mission pour nous se passe en Guinée, donc pas besoin de voyager et nous n'avons rien sur nos comptes », a déclaré le colonel Amara. Et puis en Guinée, justement, comment les Burkinabés vivent cette situation? Élément de réponse avec Dieudonné Tiendré Beogo, il est le délégué CSBE de la Haute-Guinée, région natale du président déchu Alpha Condé.
Effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu un changement de régime au niveau de notre cher pays d'accueil et qu'actuellement, bon, nous sommes vraiment dans l'observation et nous osons croire que les nouvelles autorités tiendront leur belle promesse pour que la paix et la joie reviennent en Guinée.
Et nous restons en Guinée justement où 2 Burkinabés sont morts jeudi dans un éboulement à Mandiana dans la préfecture de Siguiri en Haute-Guinée. Dieudonné Tiendré Beogo, délégué à CSBE de la Haute-Guinée, nous donne plus de précisions.
Effectivement, le jeudi 7 septembre dernier, il y a eu un éboulement dans la préfecture de Mandiana et plus précisément à Farlako. Farlako est un village situé à 7 km au sud-ouest de Mandiana. Voilà, donc malheureusement, 2 de nos compatriotes qui s'y trouvaient dans le trou ont perdu la vie et ils ont été inhumés le même jour. Et suite à cela, il y a eu des tracasseries entre nous et les chefs de paix, les autorités militaires et paramilitaires qui demandaient une rançon de 10 millions de francs guinéens, environ 555 000 francs CFA. Voilà, donc des tracasseries, d'échange en échange, finalement on s'est compris. Ils nous ont restitué les corps aux environs de 15 heures pour l'inhumation sur place et là-bas. Donc voici comment est-ce que les événements se sont déroulés.
Dieudonné Tientri Biogo, délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur, CSBE de la Haute-Guinée. Puis le 8 mai 2021, 15 personnes, dont deux Burkinabés, avaient péri dans un éboulement de terrain sur une mine d'or à Tatakoro, dans la préfecture de Siguiri. 38 000 et 40 000 Burkinabés vivent en Guinée et la plupart sont dans leur paillage. Au Mali, le gouvernement a réagi sur la question de Wagner. Une réaction du Premier ministre Chokel Maïga. Si des partenaires ont décidé de partir du Mali, nous sommes obligés de nous interroger. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, a déclaré le Premier ministre. Un extrait de ses propos recueillis par Les Jalons.
Il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays. Il y a des zones qui sont abandonnées, qu'il faut occuper aujourd'hui, on ne peut pas laisser le vide. Les forces ne suffisent pas, ça va mener à une certaine dispersion des forces. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter certaines localités, s'ils décident désormais demain de partir, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous interroger, est-ce qu'il ne faut pas avoir des plans B? D'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché, puis les gens se sont retrouvés seuls. C'est cette réflexion qui conduit à des débats aujourd'hui. On nous accuse de vouloir changer de stratégie. J'avais dit très clairement qu'il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on élargisse les possibilités de coopération pour maîtriser notre défense nationale.
À l'instant, le Premier ministre malien Chokel Maïga. Et puis en Algérie, les drapeaux seront en benne pendant 3 jours en hommage à l'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le combattant de l'indépendance a indiqué la présidence dans un communiqué hier. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat, est décédé vendredi dernier à l'âge de 84 ans. Il devrait être inhumé aujourd'hui au carré des Matis du cimetière d'El Alia dans l'est d'Alger, la capitale. C'est là que reposent tous ses prédécesseurs aux côtés des grandes figures et Matis de la guerre d'indépendance.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Avant l'invité de ce jour, je vous en parlais en titre. Iron Bibi a battu le record mondial en soulevant une charge de 229 kg lors du World's Strongest Log Lifter à Glasgow hier. Le strongman burkinabé détrône ainsi le record de 228 kg tenu par le lituanien Savigas. Madi Panandé-Tigri est notre invité. Âgé aujourd'hui de 37 ans, l'ancien international burkinabé a créé avec Jonathan Pitropa et Abdulaziz Nikema la structure PNP chargée de la logistique des étalons. Dans cet entretien, Panandé-Tigri nous parle de cette structure, des chances de qualification du Burkina dans le Mondial 2022 et revient aussi sur les temps forts de sa carrière. Il répond aux questions de Bernabé Cabré.
On sait que pour le match contre l'Algérie, c'est le Burkina Faso qui recevait. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait à Marrakech pour faciliter le séjour des étalons?
Pour faciliter le séjour des étalons, nous sommes partis une semaine avant l'équipe. Nous avons regardé l'hôtel, le terrain d'entraînement, le terrain de match. C'est notre rôle de faire en sorte que les garçons se sentent très bien à l'aise. Pour gagner des matchs, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut bien se déplacer. En gros, ce qui a été notre travail du côté de Marrakech.
Au-delà de cette structure PNP, on croit savoir que Madi Panandé-Tigri passait des diplômes d'entraîneur.
Oui, c'est vrai que je passais des diplômes d'entraîneur, mais à un moment donné, j'ai dû m'arrêter au brevet B et brevet C pour me consacrer à ma marque de vêtements sportifs qui est Amissa Sport. Et en plus, il y a le groupe PNP qui est là aussi. Pour le moment, c'est en suspens.
Madi Panandé-Tigri, vous étiez présent en Algérie, ou plutôt au Maroc, pour ces deux matchs contre l'Algérie et contre le Niger. Victoire de Burkina 2-0 face au Menin et match nul 1-1 face aux champions d'Afrique en titre l'Algérie. Comment vous avez trouvé vos jeunes frères?
C'est vrai que le premier match a été un peu difficile en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, les garçons se sont retrouvés. Ils ont fait le boulot. Et face à l'Algérie, je pense que les enfants sont rentrés un peu timidement dans le match. Mais comme contre le Niger en deuxième mi-temps, ils se sont repris. Et puis bon, ils ont montré un autre visage.
Et pour vous, hein, les chances de qualification sont intactes?
Oui, aujourd'hui, le Burkina Faso peut se permettre de rêver à la qualification puisque nous ne sommes pas loin de l'Algérie. Et je pense que pour nous, il est nécessaire de prendre les 6 points contre Djibouti parce que, bon, je peux dire que c'est l'équipe faible, disons, entre guillemets.
On va revenir sur des joueurs qui vous ont forcément marqué au cours de ces deux matchs contre le Niger et contre l'Algérie.
Disons, Kofi, ce n'est pas à présenter. Et il y a le petit Gustavo. Il nous a éblouis. Aujourd'hui, il démontre qu'il peut être un cadre de cette équipe. On peut se dire qu'on a peut-être le remplaçant de Charles.
Et vous étiez défenseur. Et comment vous avez trouvé ces joueurs de couloir?
Ces joueurs de couloir, c'est parfait. Issa, très, très, très bon joueur. J'en ai discuté un peu avec lui aussi parce qu'il déborde beaucoup d'énergie et souvent, il faut se canaliser. Pour moi, d'ici quelques années, ils vont être dans des plus grands clubs européens.
Il faut maintenir le cap surtout.
Il faut maintenir le cap. Il y a Abbas aussi qui est rentré contre l'Algérie, qui n'a pas été mauvais, qui a joué un match plein. Il a bien écouté les conseils. C'était son premier match. Il est resté calme, serein. Puis je pense que cette équipe a de l'avenir.
Pendant les Tigres, on va revenir sur votre carrière. Vous avez joué à Bordeaux, à Lokeren. Vous avez joué au Portugal, Union de Leira. Vous avez joué à Chipa United. Vous avez aussi joué du côté de l'Aisne. De tous ces clubs que vous avez traversés, dans quelle formation vous gardez un très beau souvenir?
Les trois clubs, c'est Bordeaux, Lokeren, Wiesbaden en Allemagne.
C'est dans ces trois clubs que vous avez disputé le plus de matchs?
Le plus de matchs, effectivement. Parce que bon, c'est des moments, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Je me suis intégré rapidement dans ces nouveaux clubs. Et puis bon, le courant passait très bien entre les joueurs et moi. De nature, je suis quelqu'un qui ne lésine pas à faire des efforts.
À Bordeaux, vous n'étiez pas le seul Burkinabé?
Non, à Bordeaux, j'étais avec Abdulaziz Nitiema. Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de jouer professionnel. Nous étions en centre de formation. Et là, on avait des contrats stagiaires pro. Après ces contrats, normalement, on passait pro directement. Mais bon, vu qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de conseillers, on n'avait pas beaucoup de suivi. Ça fait qu'après, je suis parti du côté de Lokeren. Aziz, lui, il est resté et après, il est allé à New York. C'est comme ça, hein. C'est la vie. À Bordeaux, c'est après la Coupe d'Afrique aux Seychelles. C'est bien avant Trinidad et Tobago. Trinidad et Tobago, on était déjà à Bordeaux.
Très belle performance avec le Burkina qui termine à troisième.
Troisième, oui.
Alors, ce match de classement contre l'Argentine, victoire 2-0.
Oui.
Vous rappelez sûrement des moments forts.
C'est des moments qu'on ne peut pas oublier parce que l'Argentine, on les a déjà joués en match de poule. On avait fait 2-0. L'arbitre nous avait un peu volé. Il y avait Carlos Tevez, il y avait Mascherano, il y avait Zabaleta.
En tout cas, le Burkina qui a terminé à troisième, une génération dorée. Ça pose aussi ce débat. Les équipes africaines dans les petites catégories vont loin, mais chez les A, c'est difficile. Aucune équipe africaine jusqu'à présent. En demi-finale de cette Coupe du Monde, le problème se situe à quel niveau?
Les équipes africaines, il nous manque un peu de sérieux. Quand vous prenez, par exemple, l'équipe de France, c'est vraiment suivi jusqu'en équipe A. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Quand un enfant de 17 ans qui joue déjà la Coupe du Monde, normalement, doit être suivi moins de 20, moins de 23 et après chez les A. Mais chez nous, dès que tu finis la Coupe d'Afrique, après c'est fini. Une fois que tu passes des moments où tu ne joues pas, c'est fini. Personne ne te donne la chance de revenir. Et c'est ce qui pose problème en Afrique. Parce qu'on ne suit pas les jeunes en fait.
Il faut revoir tout ça parce que l'équipe d'Argentine que vous avez battue en match de classement, on l'a vu les années qui ont suivi.
Ben oui, les années qui ont suivi, ils ont tous été là. Tevez, Zabaleta, Mascherano. Mais quand tu regardes notre équipe, on était 2-3. Il faut suivre les jeunes, les accompagner pour grandir.
C'était l'invité de la rédaction.
Notre invité, Madi Panandé Tigri, l'ancien international burkinabé, avec lequel nous refermons cette édition. Mais on n'en pas Edwige Tiendré-Biogo, Denis Ungrana, au micro.
Radio Omega, l'info en direct.